Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Margot Leridon, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Morgane Danan. Troisième temps de notre série consacrée au Ramadan. Lundi, nous observions la fébrilité politique propre à ce mois dans le Maghreb. Hier, nous parlions des enjeux économiques du Ramadan entre ascétisme et consumérisme. Aujourd'hui, place à sa dimension morale, mais aussi politique. Quand la charité sert le pouvoir, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
À la rupture du jeûne, nous offrons un verre d'eau, un yaourt, une pomme, des dattes et du lait. Et après avoir prié, il y a du riz ou du couscous avec du jus et de la salade.
Je ne dois pas dire que tout ce que j'ai gagné, ça doit rester pour moi et ma famille. Si je fais la fête alors que les voisins ont faim, les autres, je ne suis pas à l'aise.
S'il y a un besoin ou un intérêt à sortir cette zakat en monnaie, alors il n'y a aucun mal. À la base, elle doit se faire en nourriture. Mais s'il y a un besoin ou un intérêt, alors il est permis de la sortir en monnaie. Il y a des pays où la nourriture est abondante. Même si tu donnais de la nourriture, il est de leur intérêt qu'elle se fasse en monnaie. Dans ce cas, la sortir en monnaie est permis.
Donner, 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 donner pour les pauvres, les nécessiteux, donner pour vous faire aimer de Dieu. Telle est l'institution de la zakat, cette aumône prescrite dans les textes coraniques, notamment durant le Ramadan, comme une forme d'impôt pour les plus nobles causes. Cet argent alimente ONG, associations, fondations, mais aussi des États, leur politique sociale comme leur diplomatie. Et si l'intention ne peut être que louable, à l'autre bout de la chaîne et de ses dérivations, les actes de ces bénéficiaires ne sont pas toujours aussi estimables. À titre d'exemple, l'année dernière, le procureur de Paris, François Molins, s'était alarmé d'un microfinancement du terrorisme alimenté par des sommes modiques, mais en nombre important, disait-il, faisant explicitement référence à la zakat. Alors qu'est-ce que la zakat? Comment cette institution a-t-elle évolué au cours du temps, au cours des siècles, jusqu'à devenir un pilier social de nombre de pays musulmans? Quels sont les dispositifs permettant d'en encadrer son utilisation? Et plus généralement, à qui profite la charité islamique? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. D'abord, Pierre Conessa, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien fonctionnaire au ministère de la Défense. Vous êtes essayiste et notamment auteur de cet ouvrage, Dr Saoud et Mr Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, qui était paru chez Robert Laffont en septembre 2016. À vos côtés, Frédéric Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, docteur en sciences politiques, rattaché aux séries Sciences Po Paris, et puis auteur d'une thèse intitulée Homo Islamicus, la réinvention d'une économie et d'une finance islamique. Vous avez consacré justement une partie de votre thèse, Frédéric Coste, à la zakat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la zakat, ce qu'elle représente aussi du point de vue religieux, mais aussi politique? Frédéric Coste.
D'accord. Donc la zakat est un des cinq piliers de l'islam, donc aux côtés bien sûr de la profession de foi, du ramadan, du pèlerinage à la Mecque et des prières. Donc il est directement indiqué à 32 reprises dans le Coran, mais donc quelque chose qui paraît assez simple, c'est-à-dire l'aumône légale qui doit être distribuée à 8 catégories. Mais dans les faits, le Coran n'indique pas, par exemple, le montant qui doit être distribué. C'est quelque chose qui vient de la tradition prophétique.
Donc quand on parle du taux de 2,5%, c'est souvent ce qu'on dit, c'est comment est-ce qu'il a été défini? C'est pas un contenu dans le Coran, en tout cas.
Non, c'est un dire rapporté au prophète et à ses compagnons, donc un hadith. Et en fait, derrière cette chose assez simple, donc de la redistribution, beaucoup de questions se sont posées, à savoir quels étaient les biens soumis à la zakat. Est-ce que c'était par nature ou est-ce que c'était en espèces? Est-ce que c'est l'autorité publique qui doit collecter la zakat et la redistribuer, ou est-ce que ce sont des privés? Donc dans la grande tradition de l'islam, à l'origine, c'était un trésor public qui s'occupait de la zakat, mais très rapidement, si on prend la longue durée, ce sont des particuliers qui doivent redistribuer une partie de l'argent thésaurisé, 2,5%. Il y a aussi la zakat sur les récoltes, qui est à 10%. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé dans la grande tradition.
Et vous expliquez, Frédéric Coste, que la nature de cette aumône légale, parce que c'est ça que ça veut dire zakat, a beaucoup évolué au cours du temps et que l'utilisation que l'on en fait aujourd'hui n'est absolument pas la même qu'à l'origine. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé?
Oui, alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, de mon point de vue, c'est la modernité qui a transformé radicalement la relation au credo religieux. À l'origine, si on prend par exemple la redistribution dans l'islam des origines, le principe est celui de la précédence en islam. À savoir, ce sont ceux qui ont aidé à l'expansion de l'islam, donc les proches du prophète, les Muhajiroun au début, puis après les Ansari plus tard. Donc il y a plusieurs cercles comme ça, donc les premiers qui ont aidé la cause de l'islam sont ceux qui doivent recevoir le plus de prébendes. Donc c'est un principe fondamental qui a été tellement important que par la suite il a entraîné la rupture entre le sunnisme et ce qui est devenu le chiisme, à savoir cette onction islamique que l'on a parce que l'on est le premier musulman ou dans la première génération des musulmans. Alors ce qui a été transformé de mon point de vue, c'est donc le rapport au religieux à travers la modernité occidentale, à partir du 19e siècle essentiellement, suite aux idées socialisantes, qu'elles soient communistes, socialistes, chrétiennes sociales, etc., qui ont voulu refonder certains liens sociaux qui avaient été, disons, endommagés par la modernité, donc les liens sociaux traditionnels, et de mon point de vue, tous ces courants socialisants ont essayé de recréer du lien, de recréer un ordre social stable qui avait été complètement bouleversé par la modernité.
Donc finalement, c'est la pensée socialisante qui va faire de la zakat une forme d'abord d'outil de lutte contre la pauvreté, on pourrait résumer les choses ainsi?
Oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'à l'origine, comme je vous l'ai dit, c'est le principe de la précédence en islam, ceux qui ont aidé à l'expansion de l'islam qui vont recevoir la redistribution dans un sens générique. Et à partir du 19e siècle et du 20e siècle, les réformistes vont estimer qu'en fin de compte, suite à cette influence des idées socialisantes, eh bien que l'État-providence existait à l'origine. Et donc que l'État-providence pouvait s'occuper des plus nécessiteux et qu'il n'y aurait strictement plus aucun problème. Et pour eux, c'est même l'origine de l'État-providence vient du 7e siècle.
Il y a quand même, au moment de Ramadan, une aumône particulière qu'on appelle, et au moment où on rompt le Ramadan, qu'on appelle Zakat al-Fitr. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette aumône-là? Et puis ensuite, je vais passer la parole à Pierre Connaissin.
Alors, c'est l'aumône qui correspond à la rupture du jeûne, donc juste après le Ramadan. Théoriquement, c'est pour que les nécessiteux puissent, disons, n'aient pas à mendier pendant le Ramadan. Elle était de 5% en France pendant des années, et puis en 2018, elle est passée à 7% d'après les différentes organisations musulmanes.
Pierre connaît ça. Peut-être réaction sur la nature même de cette zakat avant de voir comment est-ce qu'elle peut parfois, évidemment pas tout le temps, mais parfois aller vers des actes et notamment vers le financement du terrorisme. Pierre connaît ça.
Oh, là, on va vite. La zakat est effectivement comme toutes les obligations religieuses dans les monothéismes, l'idée du partage, c'est-à-dire le partage entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et donc, dans son esprit, c'est effectivement une formule qui remonte notamment à l'origine de la société tribale qui était celle des prophètes, et en particulier entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, l'idée était remarquable. Ce qu'elle est devenue par la suite, évidemment, c'est un peu comme les indulgences. Hein. Ça partait d'un bon sentiment. Et puis, tous les monothéismes ont connu un peu ce moment de transformation d'une obligation religieuse en quelque chose qui n'avait plus tout à fait le même objectif.
Alors, j'indique à nos auditeurs, parce qu'ils doivent se demander ce qui se passe dans leur poste, qu'ils ne jettent pas leur poste. On a un tout petit problème de micro ici. Les techniciens sont en train de faire ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Donc, ne vous inquiétez pas. Pierre connaît ça. Je vais poser la question de façon extrêmement brutale et puis on va avoir le temps, évidemment, de détailler les choses. Mais évidemment, la plupart du temps, la zakat est utilisée à des fins absolument nobles. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'elle soit utilisée à des fins terroriste? Qu'est-ce qu'on sait des flux financiers qui auraient financé le terrorisme en partant de ce fameux impôt, cette fameuse aumône légale qu'est la zakat?
D'abord, une remarque d'ordre technique bancaire, si vous voulez. La sensibilité à l'argent sale, si vous voulez, a commencé autour du problème des organisations criminelles. C'est-à-dire tout le dispositif bancaire est parti de l'idée que l'argent sale, c'était de l'argent sale qui devait devenir propre et donc qui devait rentrer dans les circuits économiques. Bon. C'est-à-dire qu'on identifiait l'origine. Tandis que l'argent du terrorisme, c'est autre chose. C'est de l'argent propre qui ne devient sale que quand on sait qui est le bénéficiaire final. Donc c'est tout à fait l'opposé, si vous voulez, en termes d'organisation.
Et la zakat, c'est de l'argent tout à fait propre au départ. Ah ben, et il devient sale au moment où, effectivement, il se transforme en acte terroriste.
Vous et avez encore, raison, faut-il savoir qui va être le bénéficiaire effectif. Donc, par exemple, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, les Américains avaient identifié un certain nombre de, d'ONG qui étaient en fait des faunés de partis considérés comme terroristes dans la liste des 243 organisations terroristes et qui profitaient du moment du Hajj, si vous voulez, pour venir collecter plus d'argent encore que d'habitude. Donc voilà, c'est ça la difficulté proprement technique. Après, évidemment, faire le lien avec le terrorisme est toujours un peu compliqué parce que on est passé d'un terrorisme qui avait besoin de gros moyens, par exemple les attentats du 11 septembre, à un terrorisme qui n'a plus besoin de moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de focaliser sur un certain mode de transfert d'argent pour dire, voilà, ça c'est du financement du terrorisme. Simplement, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'argent qui vient, et pas obligatoirement au moment du Ramadan, et qui peut alimenter des voyages assez surprenants. Rappelez-vous que Medine Mouche, qui vivait dans sa voiture en bas de l'immeuble de sa grand-mère, tout à coup fait un voyage où il part au Yémen, au Pakistan, et il revient. Bon. Donc il y a de l'argent. Encore une fois, le lien avec la zakat est un peu compliqué.
Oui, et puis effectivement, c'est pas le même argent que celui qui a pu être utilisé, par exemple, pour le 11 septembre. Au septembre, on évalue les montants nécessaires pour cette opération à 350 000, 400 000 dollars. Pour les opérations, par exemple, de janvier et de novembre 2015 en France, c'est 20 000, 30 000 euros, quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'il y a un terrorisme, j'allais dire low cost d'une certaine manière, qui rend extrêmement difficile la lutte contre les financements qu'il peut y avoir derrière.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, sous la forme de la solidarité, qu'elle soit la zakat ou qu'elle soit d'une manière générale une solidarité dans la Oumma, on a eu une époque où beaucoup d'argent, si vous voulez, est parti notamment des États du Golfe vers des partis ou des groupes, si vous voulez, qui pouvaient être aussi bien des groupes minoritaires musulmans en situation d'oppression, si vous voulez, par exemple Gaza, ou au contraire vers des groupes militants. Donc l'objectif terroriste n'est pas automatiquement lié à cette forme de solidarité. Encore une fois, tout dépend du groupe qui va le recevoir et de sous quelle manière il va le recevoir, il va l'employer.
Frédéric Coste, est-ce que cette zakat peut être utilisée à des fins guerrières, à des fins militaires? Que dit le Coran à ce propos et que nous apprend l'histoire de l'islam sur ce point-là, Frédéric Coste?
Alors c'est difficile à dire. Donc il y a plusieurs catégories de récipiendaires de la zakat. Il y en a 8. Donc à la fois les nécessiteux et puis les pauvres, ceux qui sont endettés. Donc une catégorie qui est assez intéressante, c'est ceux dont les cœurs sont à réconcilier, ça veut dire en gros ceux qui vont être convertis à l'islam, donc éventuellement. Donc voilà, il y aurait plusieurs catégories. Ceux qui œuvrent dans la voie de Dieu. Donc là, c'est sûr que par exemple l'État islamique pourrait tout à fait utiliser la zakat pour dire qu'il faut financer les guerriers.
Mais est-ce qu'explicitement, par exemple, les récipiendaires peuvent être des djihadistes? Est-ce que ceux qui font le djihad, dans l'histoire de l'islam, ont pu parfois être financés par la zakat?
Alors sous Saladin, il me semble que oui.
C'est ce que j'ai lu aussi, que Saladin, effectivement, les campagnes de Saladin avaient été financées en partie par la zakat.
Tout à fait. Bon, après, si vous voulez, la zakat, vraiment l'idée, c'est une purification, c'est-à-dire un lien directement avec Dieu. C'est pas un lien forcément social, même s'il y a plusieurs catégories. Ce qui est important, c'est cette logique de purification, un petit peu dans une logique dématérialisée. Si on prend, par exemple, l'Arabie Saoudite. Alors, on pourrait évoquer la zakat, certains pourraient penser que ce sont des montants astronomiques. Si vous êtes un étranger en Arabie Saoudite, donc vous avez une collecte de la zakat par les autorités publiques. Donc la zakat, les étrangers ne la payent pas. Donc certains vont se dire, ah c'est bien, ils ont un avantage. En fait, c'est l'inverse. Payer la zakat en Arabie Saoudite est un privilège. Parce que si vous êtes un étranger en Arabie, l'impôt sur les sociétés est de 20%. Tandis que si vous êtes un Saoudien, vous payez 2,5%. Ce sont les seuls impôts. Donc les montants de la zakat sont quand même très très limités et je pense qu'il faut que le lien est complètement plus qu'exagéré. L'État islamique par exemple, les chiffres que l'on a sur les sources de financement de l'État islamique, une partie par exemple à peu près 200 millions de dollars par an, c'était quand même le gouvernement central de Bagdad, en Irak, qui finançait des fonctionnaires dans les territoires de Daesh, eh bien, parce que, voilà, pour assurer un certain suivi. Sur les 2 milliards de budget de l'État islamique, une partie vient du pétrole, à peu près 28%, 45% des confiscations et 24% des taxes. Mais les taxes, en l'occurrence, c'est pas la zakat, parce que la zakat, c'est trop infime. Ça va être des taxes sur ce qu'ils considèrent être les infidèles. Donc là, ils peuvent, y aller fort.
Donc quand François Molins, le procureur de Paris, dit l'année dernière dans les colonnes du Parisien que la zakat, la charité, c'est l'un des tuyaux par lesquels est financé Daesh, il ne dit pas une erreur, mais en tout cas, c'est un phénomène qui est marginal. C'est ça que je dois comprendre, Pierre Connaissin.
Oui, je pense qu'effectivement, l'idée était simplement d'alerter, si vous voulez, des Français de culture musulmane, que leur argent, ils devaient garder, si vous voulez, une forme de surveillance sur l'emploi de leur argent. C'est ça qui était, je pense, l'idée. Moi, j'ajouterais une source de revenus qui a été importante aussi pour Daesh, c'est l'industrie de l'enlèvement aussi. Hein, parce que à un moment, dans l'enlèvement, par exemple, je crois que c'était au Mali, le prix de 2 otages français qui avaient été enlevés était l'équivalent du budget malien de la défense, si vous voulez. Donc c'est pour vous donner une idée de l'importance des montants qui étaient collectés de cette manière-là. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une logique... Enfin, la déconnexion entre l'acte religieux, qui est celui de purification que vous évoquiez, et puis la relation terroriste, encore une fois, n'est pas un lien mécanique. Il y a de l'argent dans le terrorisme qui n'est pas obligatoirement versé de cette manière-là. Par contre, effectivement, qu'on achète, si vous voulez, une espèce de quitus moral en versant de l'argent indépendamment de la zakat, ça, c'est un fait, notamment en Arabie Saoudite. Après le 11 septembre, les Américains ont alerté les Saoudiens, ils ont demandé l'interdiction de à peu près 500 ou 530 ONG diverses ou fondations, dont la fondation Al-Aramayn, dont qu'ils accusaient explicitement de financer des groupes terroristes. On s'aperçoit qu'en fait, les fuites d'argent, si vous voulez, étaient multiples et ressemblaient à un tonneau troué qui partait dans tous les sens.
L'Arabie Saoudite, évidemment, Pierre Connaissin, a une place tout à fait à part dans les circuits financiers qui irriguent les groupes terroristes. Dans votre ouvrage, vous essayez d'analyser le lien entre la diplomatie religieuse et l'État saoudien et la propagation d'un salafisme djihadiste, l'une des formes du salafisme qui prône cette action armée, cette action violente pour imposer l'islam, une idéologie qui, évidemment, irrigue les mouvements terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh. D'abord, la première chose qu'on comprend dans votre ouvrage, c'est que cette diplomatie religieuse de l'État saoudien, c'est une condition en réalité de la survie de la dynastie des Saouds. Expliquez-nous ça.
Oui, la fondation du royaume, de toute façon, se fait sur deux jambes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la dynastie des Saouds qui va diriger politiquement, mais qu'elle ne tient que parce qu'elle a le soutien des Al-Shir, c'est-à-dire des successeurs de Abd al-Wahhab. Et c'est effectivement les Al-Shir qui vont fournir la légitimation de djihad contre les autres musulmans pour prendre le contrôle de la péninsule. Donc si vous voulez, deux choses, une très forte empreinte d'un islam très rigoriste qui était celui d'Abd al-Wahhab, et en même temps l'idée que le djihad fait partie de l'ADN de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que dans les écoles, il y a des ouvrages qui ont été faits notamment par Antoine Sfer sur l'enseignement dans les écoles saoudiennes, effectivement, où le djihad fait partie de cette geste nationale, si vous voulez, comme nous on a Jeanne d'Arc et Bayard. Et donc, cette diplomatie religieuse, dès la création du royaume, devient un objectif qui est, comment dire, que les religieux imposent aux politiques, c'est-à-dire il faut aider à la diffusion de l'islam, et évidemment, islam version wahhabite.
Notamment à travers un pacte de 1744.
Oui, alors celui-là, c'est le pacte originel, mais si vous voulez, quand se crée le régime en 1932, à ce moment-là, dans le système, d'abord, les Saoudiens ne s'appellent pas wahhabites. Il s'appelle salafiste. Il s'appelle pas wahhabite pour une raison très simple, c'est qu'Abdel Wahhab pensait qu'il fallait pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes et le croyant, et donc s'appeler wahhabite aurait été reconnaître à Abdel Wahhab une fonction particulière. Non, il s'appelle salafiste. Et effectivement, ils vont distribuer de l'argent, dans un premier temps pour lutter contre le nasserisme, c'est ça qu'on a oublié, mais à l'époque, le nasserisme, avec la vision stratégique des Occidentaux, c'était l'ennemi. Le socialisme arabe était considéré comme la menace. Et donc, on va se retrouver aux côtés de l'Arabie Saoudite pour aboutir à ce paroxysme qu'on a connu, c'est-à-dire que les Occidentaux ont réussi cette performance de supprimer toute la tendance moderniste du monde arabe, puisque Nasser, Assad, Saddam, le gouvernement algérien, enfin, ce socialisme qui se voulait, encore une fois, populaire, va en partie disparaître parce qu'on a totalement adhéré à l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que l'accélération se fait évidemment en 73, c'est-à-dire en 73, quand l'Arabie Saoudite devient tout à coup richissime. À ce moment-là, l'argent consacré à cette diplomatie religieuse devient extraordinaire. Donc les chiffres que j'ai trouvés aux États-Unis donnent l'équivalent de 8 milliards de dollars par an, c'est-à-dire à peu près autant que ce que les Saoudiens achètent en armes, ce qui est quand même énorme.
Vous avez un chapitre, Pierre Conessa, qui est intitulé « L'industrie idéologique wahhabite », dans lequel vous vous intéressez aux outils par lesquels se diffuse justement cette diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont ces outils, au fond, par quoi ça passe? Parce que potentiellement, et ça sera ma question ensuite, peut-être la zakat, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la charité, utilise justement ces tuyaux. Pierre Conessa.
Donc, il faut retenir l'idée que le premier objectif de cette diplomatie religieuse, c'est la lutte contre le socialisme arabe, hein, c'est contre Nasser. Bon, et comme Nasser est le grand leader, si vous voulez, du monde arabe, avec un prestige extraordinaire, il met en avant le panarabisme, auquel les Saoudiens vont répondre par le panislamisme. Il met l'université Al-Azhar comme prestige, si vous voulez, de maîtrise d'un islam moderniste auquel les Saoudiens vont opposer l'université islamique de Médine. Et donc, il y a une espèce d'effet miroir, si vous voulez, qui se crée et qui va effectivement, et en face de la Ligue arabe, encore une fois, dans laquelle Nasser jouera important, on va créer la Ligue islamique mondiale, qui se veut, si vous voulez, encore une fois, une espèce d'organisation pan-islamique.
On est en 1962.
On est en 1962, c'est-à-dire que très tôt, si vous voulez, se mettent en place des moyens. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale est toujours un Saoudien. Et donc, c'est le système qui est une espèce de faune qui va permettre, si vous voulez, de ne pas faire apparaître l'Arabie Saoudite, mais qui va permettre de financer à droite ou à gauche des mosquées, de faire payer des imams, etc. Un point que je trouve très intéressant, c'est l'université islamique de Médine. Il y a aussi celle de Riyad, enfin celle de Médine a plus de prestige. C'était en quelque sorte l'université Lumumba du communisme, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on fait venir les élites qu'on a détectées dans les madrassas que l'Arabie Saoudite a financé, les meilleurs venant faire une formation à Médine. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais discuté avec un homme qui faisait sa formation à Al-Azhar et qui disait qu'à la sortie de l'université, les Saoudiens venaient débaucher en disant « mais venez donc plutôt chez nous, parce que là-bas vous avez une bourse, vous serez logé, vous avez... »
Chez nous, ça veut dire en Égypte, au Caire, hein, à Al-Azhar.
Oui, c'était...
Précise pour les auditeurs.
Ils enlevaient les musulmans qui venaient faire leur formation à Al-Azhar pour les amener à Médine. Ouais. Et donc, encore une fois, l'université de Médine, pour les chiffres que j'ai trouvés, c'est à peu près 30 000 personnes formées en une trentaine d'années, dont le contrat était de retourner dans leur pays pour faire de la prédication. Donc il y a tout un système, si vous voulez, qui s'est mis en place, qui a finalement porté un effet assez extraordinaire. Et j'en terminerai simplement sur un débat que je trouve absolument suranné. Quand Kamel Daoud dit l'Arabie Saoudite, c'est Daesh qui a réussi, il met simplement en évidence le fait que c'est la même idéologie, c'est-à-dire celle qu'a diffusée l'Arabie Saoudite et qu'on voit aujourd'hui fleurir dans sa forme violente, si vous voulez, en Arabie Saoudite, un peu partout sur la planète.
Et alors, la question que je vous posais juste avant, est-ce que ces entités que vous nous avez mentionnées, c'est-à-dire la Ligue islamique mondiale, créée en 62, l'Université de Médine, est-ce que ces entités peuvent être utilisées à la fois pour récolter la charité, la zakat en l'occurrence, et ensuite pour diriger ces fonds vers des groupes terroristes? Est-ce qu'ils peuvent être des passages par lesquels se fait ce transfert?
Non, je crois que la mécanique est indirecte. Il peut y avoir une mécanique directe, mais il y a surtout une mécanique indirecte. C'est-à-dire, encore une fois, quand on va offrir des bourses à des jeunes qu'on a détectés dans les écoles coraniques comme étant de futurs cadres, etc., il y a une formation. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'université Lumumba, parce qu'on va chercher les meilleurs pour ensuite propager. Cela n'empêche pas qu'effectivement, il y ait des versements directs. Quand les Américains demandent la disparition de la fondation Al-Aramain, c'est parce qu'ils ont bien constaté qu'il y avait une fondation qui n'avait rien à voir avec le processus religieux, mais qui était une organisme de collecte dont on s'apercevait, quand on connaissait ses bénéficiaires, qu'effectivement on retrouvait un certain nombre de groupes terroristes pakistanais, etc., etc. Donc, encore une fois, la mécanique n'est pas obligatoirement liée à l'obligation religieuse. Elle est une espèce d'imprégnation qui a été celle de la diplomatie religieuse. Juste un exemple. Au Mali, le chef de la communauté des musulmans du Mali, qui s'appelle Mohamed Diko, est un ancien de l'université de Médine. Mmh. Et il a d'ailleurs refusé de condamner l'attentat du Radisson Blue en expliquant que c'était la faute de la colonisation. Donc voyez à quoi se peuvent servir des agents locaux.
Frédéric Coste, et puis il y a peut-être une question qui se pose, mais je vais vous laisser réagir librement, c'est jusqu'où aujourd'hui l'État saoudien a la main, d'une certaine manière, justement sur la récolte de la zakat. Vous nous disiez tout à l'heure... Vous évoquiez le fait de savoir si l'État doit se placer, a le devoir de se placer ou pas en médiateur entre ceux qui donnent l'argent et ceux qui le reçoivent. Du coup, la question qui se pose, c'est jusqu'où aujourd'hui le régime saoudien a la main précisément sur la récolte de cet impôt si particulier, et en particulier au moment du Ramadan.
En fait, la zakat en Arabie Saoudite est véritablement marginale. Donc il y a deux choses différentes. Il y a la charité d'un point de vue global qui est sur une base volontaire, qui est très fortement encouragée en islam, et dans d'autres religions bien sûr, et d'autre part la zakat, aumône légale, donc en gros 2,5% de l'argent thésaurisé ou des biens.
Il faut savoir que ce sont les entreprises...
Pardon, mais 2,5%, c'est pas marginal.
Par rapport à des impôts de...
Voilà, oui. D'accord, mais à l'arrivée, ça peut faire une somme très importante.
Ça dépend si c'est un impôt sur le revenu ou un impôt sur le capital.
Absolument.
Alors,
la réponse, impôt sur le revenu ou impôt sur le capital?
Justement, en fait, on est taxé en Arabie Saoudite, les individus sont taxés que s'ils font des transactions commerciales. Ça veut dire que, en gros, la zakat est libre en Arabie Saoudite pour les individus. Et puis, il y a beaucoup de possibilités de sortir de la zakat. C'est-à-dire, par exemple, si on achète un terrain et qu'au final, on ne veut pas construire un immeuble dessus, on ne veut pas investir, eh bien, on n'est plus soumis à la zakat. Donc, la zakat est essentiellement de l'argent qui vient des entreprises en Arabie Saoudite.
Pierre Conessa, évidemment, ce qu'ont montré notamment les attentats du 11 septembre, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'entités qu'on a évoquées tout à l'heure, ou d'ONG ou d'associations, ont pu servir pour effectivement financer le terrorisme. Est-ce que depuis, les autorités saoudiennes ont pris des mesures pour accroître leur contrôle précisément sur ces entités problématiques?
Juste une remarque. D'abord, quand George Bush déclenche la guerre globale contre le terrorisme, il a déclenché une espèce d'explosion nucléaire sur toute la géopolitique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, en Birmanie, au Myanmar, où les musulmans sont massacrés, les Rohingyas sont massacrés par les bouddhistes radicaux, une des premières réactions du pouvoir à Rangoon a été d'expliquer que c'était des terroristes. C'est-à-dire que l'utilisation du terme est devenue aujourd'hui vocation universelle. C'est une espèce de couteau suisse qui permet à n'importe quel régime sur la planète qui s'oppose à une ou qui refuse de reconnaître les droits d'une minorité musulmane considère que ce sont des terroristes. Donc c'est là encore une fois le lien entre, par exemple, l'argent qui pourrait arriver en Birmanie pour aider ces Rohingyas, qui a quand même 700 000 réfugiés Rohingyas au Bangladesh, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc que cela puisse éventuellement réutiliser de l'argent pour faire une action armée de l'autre côté de la frontière, encore une fois, on est dans des problématiques qu'il faut prendre sous l'angle politique, si vous voulez, que sous le simple angle du terrorisme. Et donc, bien entendu, l'État saoudien, sous la pression des Américains, a fait beaucoup de choses. Cela dit, quand on constate qu'aujourd'hui, alors que Mohamed Ben Salman veut privatiser 5% d'Aramco pour financer ses projets et qu'il n'y parvient pas.
Aramco étant la société pétrolière saoudienne.
Étant la société pétrolière saoudienne, l'entreprise la plus riche de la planète. Il n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de comptabilité à Aramco et parce qu'il n'y a pas de droit bancaire. Donc vous pouvez bien effectivement exercer des contrôles, mais il vaut mieux exercer les contrôles sur les personnes, si vous voulez, que sur les entités. Donc, bien entendu, il y a eu des choses qui ont été faites, mais encore une fois, avec cette ambiguïté que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire quand de l'argent saoudien va aider les Rohingyas, l'État birman va qualifier ça d'aide au terrorisme et on peut prendre une certaine distance avec cette analyse.
Mais vous ne répondez pas à ma première question qui était de savoir si, depuis les attentats du 11 septembre, le régime saoudien a essayé de mettre en place des dispositifs qui fonctionnent ou pas, que ce soit de la pure communication ou pas, mais pour justement contrôler ces entités. Vous parliez de la Ligue islamique mondiale de 62, vous parliez de l'université de Médine. Est-ce que, d'une certaine manière, on a essayé de reprendre le contrôle et comment sur ces entités?
Oui, moi je crois que l'Arabie saoudite, enfin le régime a essayé de contrôler avec, encore une fois, les moyens techniques dont il dispose. Je crois que ça s'est principalement manifesté sur des grandes familles, c'est-à-dire pour éviter que ce soit de l'argent qui soit, encore une fois, donné volontairement par de grandes familles sous des formes à la fois d'assurance et de garantie de sécurité. Cela dit, le financement du terrorisme, encore une fois, aujourd'hui est fortement décentralisé. Les attentats que nous avons connus, surtout qu'on est passé dans le terrorisme endogame, si vous voulez, ne nécessitent plus des transferts d'argent importants. Donc oui, l'Arabie Saoudite a fait des efforts. Évidemment, c'est pas le droit bancaire britannique.
Vous voulez réagir, Frédéric Coste?
Il me semble qu'il faut prendre aussi en compte d'autres éléments. C'est-à-dire que, bon, certes, le terreau idéologique du djihadisme aujourd'hui provient d'Arabie Saoudite, mais c'est aussi revenu comme un boomerang vis-à-vis de l'élite saoudienne, puisque les Saoudiens ont extrêmement peur du djihadisme. Sur leur territoire, il y a eu beaucoup de mouvements contestant la monarchie, puisque d'après eux, la monarchie ne peut pas exister en islam, remettant en cause les fondements du pouvoir saoudien. Depuis 2001, il y a eu plusieurs centaines de morts suite à des attentats. Il y a eu assez récemment, notamment un attentat devant le tombeau du prophète à Médine.
Oui, donc ce que vous voulez dire, c'est qu'au fond, c'est plus l'insécurité sur son propre territoire qui a poussé le régime saoudien à éventuellement mettre en place des nouveaux dispositifs de contrôle que des actes terroristes qui auraient été faits à l'extérieur. C'est ça que vous voulez dire?
Alors pour... Non, je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire que, en effet, leurs idées extrêmement rigoristes, on va dire très sociétales, les femmes sont très encadrées, l'homosexualité ne doit pas exister, etc. C'est retourné contre eux, et même si on les voit mal devenir plus libéraux là-dessus, en tout cas, ils savent qu'il y en a qui sont beaucoup plus radicaux qu'eux, et qui peuvent prendre les armes, et qui peuvent carrément mettre à mal le régime et le retourner. Daesh, c'est un exemple de d'un nouveau territoire complètement inédit, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a existé. Et il aurait pu avoir exactement la même chose en Arabie Saoudite, avec un renversement radical des institutions politiques ou des révoltes sociales extrêmement fortes, contestant la légitimité du pouvoir.
Mmh. D'où la nécessité, évidemment, de revenir vers encore plus d'autoritarisme du côté du régime saoudien. Pierre connaît ça.
Le lien entre l'Arabie Saoudite et le salafisme djihadiste, indépendamment de l'aspect financier, il faut quand même rappeler quelques chiffres. Les Saoudiens sont le plus gros contingent des Moudjahidines qui se battent contre l'URSS. Ils sont 15 sur 19 dans les attentats du 11 septembre, mais ils ont été pendant longtemps, avant l'arrivée des Tunisiens, le plus gros contingent à Daesh.
Donc, dire c'est l'état des lieux que vous faites au tout début de votre ouvrage.
Oui, c'est-à-dire que quand on considère quand même que ce régime, si vous voulez, peut prendre toutes les mesures qu'il veut, tant qu'il continue à avoir ce type de discours, ce type d'enseignement, ce type de rapport à l'extérieur, aux mécréants, etc., etc., on en arrive à une situation qui, évidemment, ça revient à ce que le docteur Frankenstein demande qu'on lui supprime le monstre qu'il a créé, si vous voulez. Or, c'est effectivement ce à quoi on s'est livré, puisqu'on a attaqué Daesh, mais on n'a surtout pas touché à l'Arabie Saoudite. Bon, la crise commence un peu avec Khashoggi, là. Ça donne quand même quelques états d'âme à Publicis et Havas, qui sont les deux gros commanditaires en matière de relations publiques sur le territoire français pour l'Arabie Saoudite. Mais pas trop. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'argent fait oublier beaucoup de doutes.
Vous êtes en train de nous dire que quand on nous sert le discours selon lequel le prince Mohamed Ben Salman est un réformateur et que vous allez voir ce que vous allez voir, l'Arabie Saoudite va changer du tout au tout, il faut nuancer tout ça, c'est ça que vous nous dites?
Non, je dis que c'est une formidable opération de communication. J'avais reçu, je vous le disais tout à l'heure, un relevé fait sur le New York Times, sur 70 ans de New York Times, où à chaque fois qu'arrive au pouvoir un nouveau roi en Arabie Saoudite, le titre est toujours le même, l'homme du changement. Bon. Donc c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a jamais vu un pays qui bouge autant, tout en restant tout aussi immobile. On dirait le moonwalk de Michael Jackson. Et donc, l'avantage de Mohamed Ben Salman, c'est qu'il est jeune, beau, et que tout à coup, on a le sentiment qu'il a sauté une génération, donc il va être différent. Est-il fondamentalement différent? Moi, j'avoue que j'ai quelques doutes, parce que aucun des rois d'Arabie Saoudite n'a jamais fait d'études à l'étranger, lui, pas plus que les autres. Bon. Je serais curieux de voir le prof qui lui aurait mis moins de la moyenne dans un partiel. Et donc, on est sur un système, si vous voulez, qui est auto-reproductif. Et ce système auto-reproductif, c'est évidemment une énorme ressource pour beaucoup de pays, donc d'économies des pays occidentaux. Donc, on essaye d'éviter, si vous voulez, de contourner la difficulté à chaque fois qu'ils font un acte complètement inadmissible, si vous voulez, comme, encore une fois, la mort de Khashoggi. Juste une remarque, j'arrêterai là-dessus. Khashoggi n'est que le sixième prince félon enlevé à l'étranger. Donc ma question, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, pourquoi n'en a-t-on pas parlé? Parce que quand on regarde l'Arabie Saoudite, on dit « Oh, c'est des histoires entre milliardaires saoudiens, je veux dire, ça n'intéresse personne ». C'est comme si vous disiez en Suisse, deux chefs mafieux se sont battus, ils sont assassinés. Est-ce qu'on en fait la une des journaux? Non.
Donc la manière a fait la une des journaux et longtemps.
Oui, mais c'est le cinquième. Donc pourquoi est-ce que les autres on n'en a pas parlé? C'est ça qui m'intéresse. Donc ça a fait la une des journaux.
Et pourquoi? Et vous répondez à cette question? Pourquoi?
Oui, parce que la communication, si vous voulez, faite sur l'Arabie Saoudite, c'est qu'on a intégré l'idée que ce pays est rétrograde et content de l'être. Donc quand tout à coup l'année dernière ou il y a quelques mois, il décapite 45 personnes avec retransmission à la télévision en direct. On se dit, oui, mais enfin, et quand il y a un type qui est décapité en Iran, on dit, oh là là, c'est scandaleux, le régime des Mollahs. Donc, on a un système de deux poids, deux mesures à l'égard de l'Arabie Saoudite qui mériterait qu'on s'interroge.
Frédéric Coste, encore quelques questions avant de retrouver tout à l'heure par téléphone Jean-François Pérouse depuis Istanbul. Je reviens à la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle de la charité. À l'heure du Ramadan, c'est notre série cette semaine. Si on regarde la zakat du côté de la France, parce que je reprends les propos, alors j'entends bien ce que vous me disiez tout à l'heure, à propos du fait que la zakat, au fond, ça représente pas grand-chose, que par ailleurs, évidemment, ça ne fait pas que financer le terrorisme, mais il se trouve que quand même, François Molins, l'année dernière, avait dit qu'effectivement, la zakat avait pu, en partie, en tout cas, financer des actes terroristes. Comment est-ce que c'est encadré en France?
Alors, en fait, il n'y a pas réellement d'encadrement, c'est-à-dire que la zakat est quand même une base volontaire, c'est une obligation légale, mais devant Dieu. Après, c'est un acte de purification et donc on donne. Maintenant, on peut le
mais
faire.
Mais il y a des organismes dédiés qui récoltent justement
tout
cet argent.
Fait. Les mosquées. Vous pouvez donner la zakat aussi maintenant à des ONG. musulmanes. Les ONG musulmanes, il y en avait très peu en France, essentiellement Secours Islamique France depuis le début des années 90.
Et il existe des dispositifs qui vérifient, qui contrôlent ce qu'on fait ensuite de cet argent ?
Alors qui contrôlent, c'est-à-dire que c'est un don, donc c'est libre. C'est à vous de le calculer, vous avez même un petit calculateur sur les sites.
Ah, mais l'utilisation qu'en font ces ONG ou ces associations ? Ou ces mosquées ?
Alors ça, c'est plutôt au pouvoir public de le contrôler, comme toutes les ONG.
Et elles le font ?
Alors, par exemple, je sais que Secours Islamique France est très transparente. Monsieur Larlou avait reçu la Légion d'honneur. Donc, ils se font auditer, ils publient leur rapport annuel. D'autres ONG qui ont été créées entre 2009 et surtout après la crise syrienne, c'est un peu plus difficile de connaître, en effet, les fonds. Mais il n'y a pas que la Zakat, il y a la charité, et puis il peut y avoir d'autres fonds qui viennent même d'ailleurs.
Et au-delà de la France, Frédéric Coste, est-ce que vous diriez que, quand on regarde un peu l'évolution de l'économie islamique, puisque c'est le sujet de votre thèse de façon générale, on se dirige vers plus de régulation, peut-être même une forme de dépolitisation de ces enjeux très économiques, de la charité qui nous intéresse aujourd'hui ?
Difficile à dire. Par exemple, le pays qui se considère un petit peu comme l'avant-garde dans l'islam économique, qui a beaucoup développé la certification halal, c'est la Malaisie, qui a développé des marchés de capitaux islamiques, donc c'est la Malaisie. Et la Zakat est centralisée en Malaisie, donc en fait c'est un État fédéral, donc les différents États récoltent la Zakat. Mais par exemple, ils ont fait une transformation assez inédite de la Zakat, puisque une partie de l'argent après est transformée en microcrédit pour des entrepreneurs. Donc ils font des formations de management et puis d'éthique aussi, de bon comportement dans les affaires pour voilà, développer l'esprit d'entreprise, ce qui est assez assez surprenant. Mais par contre, en Malaisie, c'est difficile de considérer qu'il n'y a pas d'utilisation politique de cette collecte de la Zakat, puisque ils ont une certaine vision de l'islam et qu'ils n'aiment pas trop les déviances, et que selon par exemple un article de Dominique Müller, il y aurait même une partie de ceux qui reçoivent la Zakat, ce seraient des centres pour remettre les gens dans le droit chemin du point de vue religieux.
Pierre connaît ça, avant d'accueillir Jean-François Carrouse.
Juste une remarque sur votre question concernant la Zakat en France. C'est vrai que le procureur Molin, ça a des raisons de s'inquiéter, mais il faut quand même faire attention à ce que, progressivement, l'analyse sociologique s'est renversée. Le phénomène qui marque la société française aujourd'hui, c'est l'intégration de la communauté française de culture musulmane. On est attiré par les événements sur le développement du salafisme, mais fondamentalement, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, la Zakat est donnée par des gens qui sont des croyants, qui souhaitent évidemment que cet argent soit utilisé à des buts humanitaires. Et donc, se reposer la question de la Zakat pour aboutir au terrorisme est une manière à peu près analogue à ce qu'on fait quand on demande à un musulman, est-ce que vous critiquez les attentats terroristes, et qui vous dit, mais attendez, je suis français, tout à coup vous me demandez de sortir ma carte de musulman pour condamner. Donc on est dans cette ambiguïté vis-à-vis d'une communauté qui est dans un processus d'intégration, tout le monde qui connaît un banquier, un écrivain, un acteur, etc. etc. Et en fait, notre version et notre vision, si vous voulez, est pervertie par le salafisme et les attentats.
C'est bien de le rappeler. Merci beaucoup Pierre Conessa de le faire. Vous êtes avec nous ce matin avec Frédéric Coste dans cette série consacrée au Ramadan. Quand la charité sert le pouvoir, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde, 11h38. Vous écoutez France Culture.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ambiance festive, très festive lors de l'iftar, lorsqu'on rompt le jeûne, on se retrouve dehors à Istanbul, on rompt parfois même le jeûne collectivement, directement dans la rue, sous les tentes installées par la municipalité. On va en parler dans quelques instants, on va parler de cette politique sociale de l'AKP et la manière dont le Ramadan peut éventuellement constituer un moment très particulier pour déployer cette politique sociale. On retrouve en direct par téléphone Jean-François Pérouse, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct depuis Istanbul. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université Toulouse 2 et puis en ce moment, directeur de l'Institut français d'études anatoliennes.
Ancien directeur
de l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Alors d'abord, avant d'évoquer ces fameuses tentes de l'Iftar, il y a quand même évidemment l'actualité qui nous rattrape. Il y a un mois et demi, on s'en souvient, il y a des élections locales qui se sont tenues en Turquie et elles avaient vu notamment la défaite de l'AKP à Istanbul. L'AKP étant le parti islamo-conservateur du président Erdogan. Ce qui a été vécu comme un terrible camouflet, disons-le, pour Erdogan, qui a commencé sa carrière, rappelons-le, comme maire de la ville précisément, et qui a toujours été dirigé, tenu par un responsable de son parti. Et il se trouve que cette semaine, Jean-François Pérouse, on a appris que l'autorité électorale annulait le scrutin municipal d'Istanbul. L'AKP réclame donc la tenue d'un nouveau vote en dénonçant un certain nombre d'irrégularités. Comment est-ce qu'on vit, là, à Istanbul, ce début de Ramadan? Pas tout à fait comme les autres. C'est évidemment un nouveau choc politique pour le pays. Jean-François Pérouse.
Oui, effectivement, c'est un début de Ramadan assez troublé. Vous évoquiez la rupture du jeûne, donc l'Iftar dans la rue, donc la première rupture du jeûne organisée notamment par le mouvement des musulmans anticapitalistes a été très très sévèrement réprimée, puisque un des leaders du mouvement musulmans anticapitalistes a été arrêté mis en garde à vue. Donc c'est malheureusement un climat plutôt tendu lié à l'annulation d'un des quatre scrutins. C'est ce qui est très très compliqué et de ces élections locales. Et donc sera réorganisée seulement l'élection du maire métropolitain. Donc on connaît désormais la date, le 23 juin.
Oui, et l'opposition a appelé à retourner aux urnes, justement. Pour en revenir à notre sujet de la semaine, Jean-François Pérouse, est-ce que le Ramadan pourrait être, selon vous, un moment propice pour l'AKP, pour justement mobiliser les électeurs pour ce prochain scrutin? Est-ce qu'il y a des efforts spécifiques qui pourraient être déployés pour convaincre justement les Stambouliotes d'aller voter pour le candidat de l'AKP?
Alors, oui. De manière informelle, c'est évident, puisque c'est une occasion de renforcer, de réactiver les liens de redevabilité qui sont à la base de la constitution des clientèles politiques. Et disons, c'est pas nécessairement une politique qui est conduite, c'est vraiment croyant politisé qui se sent investi d'une mission et qui utilise ce moment privilégié évidemment pour rappeler à certains leurs devoirs dans une confusion évidemment entre l'ordre religieux et l'ordre politique.
Mais justement, comment on rappelle ce devoir? Parce que Jean-François Pérouse, j'expliquais tout à l'heure que traditionnellement la mairie d'Istanbul par exemple met en place des tentes où chacun peut venir le soir pour la rupture du jeûne, pour l'iftar. Est-ce que par exemple ce moment-là, cet espace-là peut être un moyen justement de convaincre les électeurs de voter pour l'AKP?
Un moyen direct, c'est certain. Et donc c'est à la fois la mairie métropolitaine et les mairies de chacun des arrondissements d'Istanbul, 39 arrondissements, qui évidemment renforcent à l'occasion de ces moments de charité bien organisés, renforcent les liens de redevabilité une fois de plus. Et c'est indirectement une manière de consolider la clientèle politique et de s'assurer de la fidélité des futurs électeurs.
C'est l'un des outils. Cette tradition des tentes d'Iftar, ça existe depuis longtemps ou est-ce que c'est un marqueur de la politique sociale de l'AKP?
Je pense qu'on peut dire que c'est un marqueur. C'est vraiment très très lié à l'émergence dans le champ politique turc de l'islam politique, c'est-à-dire dans sa version pouvoirs locaux à partir de 1994. C'est du moment où Recep Tayyip Erdogan a pris le contrôle de la mairie d'Istanbul. Donc, ça fait plus de 25 ans. On a là des pratiques qui sont bien ancrées et qui sont montées en puissance avec toute une logistique, avec toute une économie qui rend visible les liens entre certains milieux d'affaires et l'AKP.
On va y revenir justement sur ces liens, effectivement. Mais est-ce qu'il y a d'autres partis qui déploient ces fameux tentes d'Iftar?
Ah oui.
D'accord.
on voit les autres, les mairies d'arrondissement qui ne sont pas tenues par la KP, qui sont tenues par, par le Parti républicain du peuple, hein, jouent aussi, hein, utilisent hein, ce moment-là aussi, et donc organisent hein, des repas de rupture du jeûne. Et c'est la stratégie du nouveau candidat, hein, enfin celui qui a été élu puis dont l'élection a été annulée. Hein, il se met en scène vraiment comme un croyant ordinaire, hein, et d'une manière qui n'est pas fausse, qui n'est pas obscène. Hein, et évidemment, donc les premières vidéos de rupture de jeûne hein, ont circulé. Hein, on le voit en famille. Enfin, c'est très très habile, hein, et ça permet de dans les représentations collectives de corriger l'image un peu caricaturale qui est qu'on peut avoir et qui peut être entretenue par la KP d'ailleurs, hein, d'un parti républicain du peuple laïcard voire anti-religieux.
Jean-François Féperouse, vous avez participé à l'ouvrage de François Georgeon, Le mois le plus long, Ramadan à Istanbul de l'Empire ottoman à la Turquie contemporaine, qui était paru aux éditions du CNRS, et vous y soulignez le fait que depuis quelques années, je vous cite, une partie de la presse s'étonne du régime à deux vitesses de certaines tentes municipales de rupture de jeûne. Alors comment s'illustre ce régime à deux vitesses des tentes d'Iftar et qu'est-ce qu'il révèle selon vous?
Il révèle la contradiction fondamentale, la contradiction sociologique de l'AKP, hein, qui est un parti qui à la fois exalte l'enrichissement individuel hein, et qui se nourrit hein, des nouvelles positions acquises dans le système économique comme dans le système politique hein, et de la réussite d'un certain nombre de ces cadres et de ces membres, mais d'un autre côté, et de plus en plus, il a une sociologie électorale hein, qui est, disons, constituée de ménages hein, qui sont dans la difficulté. Hein, et alors, on a d'un côté, en direction hein, de ces ménages dans la difficulté qui constituent malheureusement plus de 40% à peu près des ménages à Istanbul, eh bien, le régime commun, hein, des ruptures de jeûne, et puis de l'autre côté, à l'adresse des milieux d'affaires, à l'adresse un régime de rupture de jeûne, hein, beaucoup plus dans la distinction qui se fait dans les hôtels de luxe, hein, sachant que le secteur du tourisme est un secteur particulièrement privilégié par la KP.
Encore une petite question, puis je voudrais faire réagir Pierre Conessa, parce que j'ai vu, a écrit énormément de choses sur son petit papier devant lui, donc je voudrais le faire réagir, mais ces tentes d'Iftar, ces repas qui sont offerts aux Stambouliotes, ils sont évidemment payés par de généreux donateurs. Qui sont ces généreux donateurs qui fondent cette économie de la charité à Istanbul?
Alors, ce sont des organisations patronales à base soit sectorielle, soit à base géographique, hein, tel arrondissement ou tel secteur d'activité, hein, et qui, dans leur négociation hein, avec l'AKP, notamment pour l'attribution des marchés publics, eh bien, se sentent dans l'obligation hein, de financer une partie de la politique sociale de l'AKP. Hein.
Donc là, nécessairement des proches du pouvoir, en fait.
Oui,
bien sûr.
Absolument. Hein. Mais qui, bon, c'est une dimension énergétique, hein, c'est aussi une manière de faire de la publicité hein, pour un certain nombre de groupes. On a aussi cette dimension hein, qui est indissociable.
Vous restez avec nous, Jean-François Pérouse. Pierre Conessa, réaction.
Ma réaction, j'étais très intéressé que vous ayez pris justement en miroir de ce qu'on disait sur le Zakat, le cas de la Turquie, parce que j'ai le sentiment que l'AKP, et en particulier Erdogan, se considère comme le véritable leader du monde sunnite. Et évidemment, dans ce sens-là, quand on l'a vu sur l'affaire Khashoggi, la manière dont il a géré les éléments d'information dont il disposait, c'est-à-dire les images du soi-disant Khashoggi qui sortait du consulat, puis ensuite il a montré que tout le consulat était sonorisé par ses propres de services de renseignement, puis il a sorti des informations au fur et à mesure pour mettre en difficulté complètement Mohamed Ben Salman. Et donc il y a quelque chose de très fascinant parce qu'en fait cette affaire-là a servi à marquer des points à l'encontre de l'Arabie Saoudite. Moi je l'ai constaté en Asie centrale parce que j'étais la semaine dernière et je me souviens d'un chiffre qui m'avait frappé, je crois que c'est en Ouzbékistan qui doit à peu près compter la moitié des musulmans d'Asie centrale. Au moment de la chute de l'URSS, il restait une trentaine de mosquées. Aujourd'hui, il y en a 1200. Et ces 1200 ont été essentiellement construites par des fonds saoudiens. C'est-à-dire que dans cet espace turcophone, vous avez aussi la traduction d'une espèce de rivalité que l'AKP avait quand même je dirais pas qu'il est dans un espèce de pan-ottomanisme, mais enfin, il y a quand même une vision de solidarité des turcophones sur la planète, même s'ils ne se sentent pas solidaires. Mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est une espèce de rivalité. Et ce que vous dites sur le caractère démonstratif de la rupture du jeûne organisée, encore une fois, par la KP, me paraît un signe intéressant de démonstration, si vous voulez, de foi par le gouvernement turc.
Jean-François Pérouse, j'en profite que vous êtes là. On a beaucoup parlé ce matin de cette question de la zakat, cette aumône légale particulièrement importante au moment du Ramadan. Comment ça s'organise en Turquie et jusqu'où l'État turc, et ce sera ma dernière question, jusqu'où l'État turc a la main justement sur la récolte de cette charité?
Alors ce qui est intéressant dans le cas de la Turquie, c'est que là, disons, l'État turc est vraiment en retrait. Hein. Il a en quelque sorte délégué l'économie de la zakat à des groupes, Tarikat ou autres, et à la sphère individuelle. Et là, c'est très très clair quand on regarde les textes, les instructions concernant la zakat. On a une espèce de volonté, une posture de retrait qui est clairement affichée, alors que il n'en est pas de même pour le hayr sevale, c'est-à-dire la bienfaisance, ou pour la sadaka, qui est plus l'aumône courante.
Et comment expliquer ce retrait? Comment vous comprenez ce retrait?
J'ai l'impression que c'est un partage des tâches, et que actuellement il y a un accent que l'État mise davantage sur la mobilisation donc de la bienfaisance, vise plus sur la mobilisation sur le thème de l'aumône au moment des fêtes, notamment du sacrifice, là où l'État et un certain nombre de ses institutions retirent des bénéfices en récupérant les peaux des bêtes notamment. Zakat semble, dans une mesure, abandonner à ce qu'on pourrait appeler, même si c'est sommaire, l'islam non étatique en Turquie et à la sphère individuelle.
Toute dernière action.
Et c'est intéressant dans le discours qui est développé, notamment sur le rapport entre l'impôt, l'impôt dû à l'État, et la Zakat. Il y a vraiment une volonté de souligner que si l'impôt est le monopole de l'État et qu'il y a un devoir du citoyen, la zakat appartient à un autre ordre. Donc là, de ce point de vue-là, il y a quand même une différenciation qui est opérée, même si pour d'autres obligations et pour d'autres rituels, l'État exerce son contrôle et tire des bénéfices.
Merci beaucoup Jean-François Pérouse d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes géographe, l'ancien directeur donc de l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul et que vous avez participé à cet ouvrage de François Georgeon, Le mois le plus long, Ramadan à Istanbul, qui était paru aux éditions du CNRS. Et un grand merci à nos deux invités ici à Paris. Pierre Conessa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense et puis auteur notamment de cet ouvrage, Docteur Saoud et Mister Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, préfacé d'ailleurs par Hubert Védrine, j'ai pas dit tout à l'heure, qui était paru chez Robert Laffont. Un grand merci à vous, Frédéric Coste. Je rappelle le titre de votre thèse, Homo Islamicus, la réinvention d'une économie et d'une finance islamique, peut-être apparaître un jour, on ne sait
bien sûr.
11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous venez avec une révélation. L'Europe ne serait pas le berceau du capitalisme. Encore une invention européenne qui nous échappe. Voilà en tout cas ce que dit un livre qui vient de paraître en anglais.
Eh oui, oubliez tout ce que vous avez lu sur le fameux cycle vertueux de l'Europe. Constitution d'une société civile autonome, création d'une économie d'échange et institution des marchés, concept d'investissement, grandes découvertes, lumières, grandes inventions. Fermez tous vos livres sur le secret de l'Occident de David Cossandet, cherchant dans l'histoire pourquoi le développement scientifique à partir de la Renaissance européenne eut lieu dans le cadre exclusif de la civilisation occidentale, je cite là Braudel. Non, l'histoire
histoire globale entend bien provincialiser l'Europe, réduire son ancienne prééminence à un accident historique. Et voilà que l'invention du capitalisme lui-même lui est contestée. Dans un livre intitulé « The Birthplace of Capitalism, the Middle East », fort bien analysé dans la lettre Phoebe qui vient de paraître, Nima Sanandaji soutient qu'une forme relativement sophistiquée de capitalisme fonctionnait au Moyen-Orient 2000 ans avant Jésus-Christ. On nous dit, écrit-il, que le capitalisme est une idée relativement nouvelle, lancée par un philosophe écossais, Adam Smith, au XVIIIe siècle. C'est faux. Selon lui, toutes les institutions décisives du capitalisme existaient déjà au Moyen-Orient, dans le nord de la Mésopotamie, entre Tigre et Euphrate, les villes actuelles de Bagdad, Alep et Mossoul. On se souvient que le code d'Hammurabi, 1750 avant notre ère, comportait en effet 24 paragraphes traitant du commerce et 15 des dépôts et des dettes. Il existait bien là-bas un droit commercial. Mais en outre, des milliers de tablettes gravées retrouvées par les archéologues entre Irak et Syrie concernaient des traités commerciaux. Et elles démontrent qu'étaient connues des marchands babyloniens l'existence des marchés et leurs fluctuations, que la détermination des prix y était l'objet de calculs élaborés. Dans ces villes s'était développé un artisanat brillant. Elles abritaient d'authentiques entrepreneurs appuyés par des techniques financières de prêt et d'assurance élaborée. L'économie de marché, je cite, est née dans ces civilisations opulentes du Moyen-Orient. Par contraste, l'Égypte, régie par une planification centralisée, a vu son économie stagner. Quant à la Chine, toute son histoire serait marquée par l'alternance de périodes où les marchés étaient libres, avec d'autres, de contrôle politique de l'économie. Les premières conduisirent à son enrichissement, les secondes à sa régression. Car selon notre auteur, dans toute civilisation développée, semble-t-il, le berceau est une économie de marché. Et ce n'est pas une invention européenne. Le lien entre économie de marché et prospérité est universel. Alors, Sanandaji exagère sans doute, au profit de sa thèse, le dégoût des Romains pour le commerce réputé indigne d'un patricien et relégué de ce fait aux Syriens, Phéniciens et autres Levantins. S'il est vrai que le revenu agricole tiré de la propriété terrienne et de celle des esclaves destinés à la cultiver sont demeurés la source essentielle de la richesse à Rome, il ne faut pas négliger l'émergence rapide d'une classe de marchands et d'affairistes, les Argentarii, qui jouaient un rôle de banquiers. C'est en leur sein que se développa l'ordre équestre. Reste que si le monde antique pratiquait le commerce, il n'eut pas l'idée d'investir le capital commercial dans des entreprises qui se seraient rapprochées du modèle capitaliste. Aldo Schiavone, un historien italien, l'a bien montré dans un livre qui s'appelait « L'histoire brisée », un livre qui montre comment l'Empire romain est passé à côté de cette révolution du capitalisme entrepreneurial que Nima Sanandaji croit, lui, pouvoir repérer en Mésopotamie.
Et alors, Brice, l'avènement de l'islam aurait-il interrompu ce cycle vertueux de l'enrichissement mutuel ?
Nullement, selon l'auteur. Le monde musulman aurait même été, je cite l'article de Sylvien Trifilio dans Phoebe, l'entrepôt du monde jusqu'à la Renaissance, une chambre de compensation et un réservoir de monétaire, une zone d'intense production et d'arbitrage entre marchés. Or, ces fonctions, la civilisation islamique n'aurait pu les remplir si elle n'avait entretenu et développé les institutions et l'esprit d'entreprises héritées du Moyen-Orient antique. C'est fin de citation. Selon Sanandaji, les Italiens et les Espagnols ont appris certaines techniques de comptabilité chez les marchands arabes, dont Sinbad le marin demeure dans l'imaginaire mondial le vibrant symbole. Et pour appuyer sa démonstration, Sanandaji a l'habileté de faire appel au témoignage des auteurs grecs qui fréquentaient les Orientaux durant l'Antiquité. Et il trouve en particulier chez Xénophon des preuves assez convaincantes de l'existence d'un droit de propriété, d'un droit des contrats chez les voisins orientaux. On devait déjà créditer les Mésopotamiens d'avoir inventé l'écriture, la Genèse, le mythe du déluge. Et voilà maintenant qu'il faut aussi leur concéder l'invention du capitalisme.
Et bien voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette nouvelle et pour cette chronique qu'on peut retrouver bien sûr sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.